de découvertes, mais aussi et surtout d'actu. Avec aujourd'hui la crise immobilière, le plus dur est-il passé? Les taux d'intérêt baissent tout doucement. Pour autant, les transactions ne décollent pas encore. Nous ferons le point à 6h20. Juste avant, dans Esprit d'initiative, de la poésie sur le bitume. Un botaniste toulousain écrit à la craie le nom des plantes sauvages qui poussent sur les trottoirs de la ville rose. Dans la chronique polar, une trilogie qui se déroule dans un futur proche, la transparence totale est devenue le nouveau système politique. Vous entendrez aussi un podologue et une dermatologue. Le podologue, c'est notre invité déjà debout. Il a inventé un nouveau type de semelle orthopédique qu'il présente ces jours-ci au concours Lépine. Quant à la dermatologue, elle est dans les petits bateaux pour nous expliquer comment se fabrique la peau. Pour la musique, je vous propose Alain Chamfort et Norah Jones dans la première demi-heure. Et pour la rigolade, Tanguy Pastureau et Daniel Morin.
France Inter.
Et avant tout cela, le journal présenté par Arthur Fradin. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous.
De violents orages ont éclaté hier soir et cette nuit sur une partie du pays.
Et de nombreuses communes ont été touchées par de grosses averses de grêle particulièrement impressionnantes. En Bourgogne, où il pourrait y avoir beaucoup de dégâts dans le vignoble de Chablis, Vincent Laroche, viticulteur associé au domaine de la Meulière, redoute le pire.
Certaines communes ont été impactées par la grêle, mais c'était mélangé avec de l'eau, donc il y a eu des dégâts qui étaient moindres, je dirais. Et puis d'autres communes, notamment dans le nord du vignoble, où là, c'était de la grêle sèche, si je puis dire, sans eau. Et celle-ci a commis de très gros dégâts, puisque certains de mes confrères, malheureusement, ont tout perdu. Les coteaux étaient tout blancs, comme en plein hiver, comme s'il y avait tombé de la neige. Donc là, on sait que ces secteurs-là ont été grêlés à 100%. C'est arrivé à 20h, à l'instant que l'orage se termine et qu'on sorte dans les parcelles de vignes pour constater, la nuit était tombée, donc c'était très compliqué... À la tombée de la nuit, de faire des estimations. Là où on fera les meilleures estimations, ça va être au lever du jour.
Et en raison des orages, hein, le trafic aérien a également été très perturbé à Orly et Roissy. Hier soir, une quinzaine de vols ont dû être déroutés vers d'autres aéroports. La vigilance orange aux orages et aux pluies est à présent levée partout. Emmanuel Macron espère clore le chapitre de la crise agricole du début d'année. Le président reçoit les représentants du monde paysan à l'Élysée ce matin. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé un nouveau paquet de mesures pour les agriculteurs le week-end dernier, comme une retraite calculée sur les 25 meilleures années. La France, c'est le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers. C'est le baromètre annuel du cabinet EY qui nous l'apprend. L'an dernier, environ 1200 projets d'investissement d'entreprises étrangères ont été enregistrés dans l'Hexagone. Au classement, la France devance le Royaume-Uni et l'Allemagne.
Déterminé, mais clairsemé, il y a eu beaucoup moins de monde hier 1er mai dans les rues.
Environ 210 000 personnes ont défilé selon la CGT, 121 000 d'après le ministère de l'Intérieur, qui ont dénombré 800 000 l'an dernier au moment de la réforme des retraites. À Cherbourg, 8 à 900 personnes se sont mobilisées avec la politique du gouvernement dans le viseur, Anthony Rimbaud.
Ils étaient presque 10 fois plus l'an dernier pour un 1er mai au cœur de la lutte contre la réforme des retraites. Un an plus tard, la réforme est passée. Une bataille perdue qui a sûrement laissé des traces, regrette Michel.
Il y a de la rancœur qui ne s'exprime pas forcément comme on le souhaiterait. Pour autant, les revendications, elles n'ont pas bougé. Mais effectivement, les mobilisations sont un peu plus compliquées. Il faut que chacun comprenne qu'il détient une part du résultat. La mobilisation, elle appartient à tous. Et déléguer ses pouvoirs aux manifestants comme nous, c'est bien, mais ça ne suffit pas.
Et dans les discussions entre manifestants, la question du pouvoir d'achat revient sans cesse. À l'image de Gaston, un habitué des manifs du 1er mai.
Avec la grosse retraite qu'il m'a donnée, Macron, on fait des folies. Hein. Tu crèves la dalle. Si tu ne fais pas attention... Tu crèves, hein, petit à petit, tu vois, parce que tout augmente, que ce soit le loyer, l'électricité et tout, tu crèves la dalle.
Une situation qui inquiète Bastien. Ce jeune de 29 ans est remonté contre le gouvernement et espère un sursaut.
Faut pas se résigner, faut venir là tous les 1er mai déjà. Et dans les prochaines luttes, il faut être unis, pas dans chaque secteur, mais que ce soit une grève générale illimitée, ça sera un rêve, mais en tout cas, on n'en est pas là.
Mais plus que la grève générale, dans le cortège, bon nombre de manifestants parlent surtout du 9 juin, date des élections européennes, pour se faire entendre.
Un reportage Anthony Rimbaud, France Bleu Cotentin. Les principaux incidents pour ce 1er mai ont été relevés à Paris, où 45 personnes ont été interpellées et 35 placées en garde à vue. Raphaël Glucksmann a lui été empêché de manifester à Saint-Étienne pour la fête du travail. Le candidat du PS aux européennes, pris à partie par une cinquantaine de personnes et arrosé de peinture, il pointe du doigt la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon lui demande de s'excuser.
France Inter 5h05, le Hamas qualifie de victoire la rupture par la Colombie de ses relations diplomatiques avec Israël.
Décision prise par Gustavo Petro, premier président de gauche de l'histoire du pays. Pour lui, Benjamin Netanyahou est un génocidaire. La Colombie rejoint l'Afrique du Sud, la Bolivie et le Belize qui ont déjà mis fin à leurs relations avec l'État hébreu. Pendant ce temps, toujours pas de réponse du Hamas à la proposition de trêve à Gaza formulée par Israël ce week-end. Selon le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, un rejet du Hamas montrerait son peu de considération des Palestiniens. En Géorgie, des dizaines de milliers de manifestants rassemblés jusque tard dans la nuit pour protester contre le projet de loi controversé sur l'influence étrangère adopté par le Parlement. Il vise à rendre plus difficile l'accès du pays à l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, appelle le pouvoir à, je cite, « garder le cap vers l'UE ». En Grande-Bretagne, jour d'élection municipale, aujourd'hui le maire de Londres depuis 8 ans, Sadiq Khan, est candidat à un troisième mandat. Les sondages lui donnent autour de 15 points d'avance sur ses concurrents.
Le Paris Saint-Germain, lui, n'a pas fait honneur à son statut de favori.
Le PSG s'est incliné 1-0 face au Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions de football. Malgré la contre-performance, les fans, l'entraîneur et les joueurs continuent à croire en leur rêve de finale, Xavier Monferrand.
À la sortie du stade, les supporters parisiens avaient perdu le sourire, mais pas l'espoir. Ils en ont vu d'autres, et pour Sophie, c'est presque un mal pour un bien.
Pour être abonné de longue date et avoir souffert pour le PSG, j'aime bien cette position dans laquelle on va arriver la semaine prochaine, où justement on a tout approuvé et on n'arrive pas en mode « c'est sûr, on gagne ». Donc j'aime bien.
En coulisses, aucune inquiétude. La confiance des joueurs était intacte après le match, à l'image du gardien italien du PSG, Gianluigi Donnarumma, déjà la tête au match retour.
C'est seulement le premier mi-temps et je suis sûr qu'à Paris, c'est notre match. C'est encore tout ouvert. Je sais que l'équipe m'a donné tout pour aller à la finale. Ça, c'est très important.
Dès le coup de sifflet final, Luis Enrique est allé haranguer les supporters parisiens, brandir le poing devant le parquage, façon rien n'est joué et pas besoin de longs discours pour l'entraîneur du PSG.
Nous n'avons plus rien à perdre, on va aller chercher cette finale.
Et les Parisiens seront au repos ce week-end avec pour seul horizon ce match retour mardi prochain pour tenter de refaire le coup de Barcelone.
Et puis l'OM de son côté retrouve ce soir l'Atalanta Bergame en demi-finale aller de Ligue Europa. Coup d'envoi à 21h dans un vélodrome évidemment à guichet fermé pour cette 9e demi-finale européenne de l'histoire des Marseillais.
Et vous, je vous attends pour un deuxième journal à 5h30, Arthur Fradin.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Le tonnerre a bien grondé cette nuit et ce n'est pas tout à fait fini, Elodie Calac.
Encore perturbé, les orages parfois violents de la nuit entre la Bourgogne, l'Île-de-France et les Hauts-de-France remontent vers le nord et s'éloignent. Les pluies les plus soutenues entre le nord du centre-Val de Loire et la Normandie également. Ce matin, on retrouve un temps pluvieux sur les deux tiers est du pays, avec des pluies irrégulières sur la partie nord, plus copieuses du massif central vers Rhône-Alpes et le Jura. Il neige sur les massifs du sud. Cet après-midi, peu de changements. Les pluies les plus marquées s'étendront des Alpes et de l'Auvergne vers le nord-est. Le vent souffle jusqu'à 70 km à l'heure en Méditerranée. On trouve des éclaircies tout de même qui reviennent de la Bretagne vers l'Aquitaine et le Roussillon, mais encore quelques averses. Comptez 6 à 12 degrés ce matin. Cet après-midi, il va faire frais, souvent 12 à 17 degrés, jusqu'à 19 en Alsace et en Corse.
France Inter, le 5-7.
Dans 3 minutes, le journal des Outre-mer, on parlera du choléra à Mayotte, d'un couvre-feu pour les mineurs à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et de la mangrove de Nouvelle-Calédonie. Avec Cyril Lacarrière, nous examinerons des maps mondes et il y aura aussi le billet humoristique de Tanguy Pastureau. Pour le moment, il est 5h09, on vous réveille avec la grâce d'Alain Chamfort.
Ne serait-ce qu'une fois, hélas, ne serait-ce qu'un instant fugace, les mains sales, les ongles pleins de grâce, aurais-je su toucher la grâce, ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse, comme on pousse une je sus toucher la grâce. Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans la voix chercher, parler devant, parlant de moi? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment. Ne serait-ce que de guerre lasse, sans ne plus y croire des masses, tabassé par la vie qui tabasse. Aurais-je su fondre la glace, trouver une voie dans les congères, jusqu'au cœur de mes congénères, avant que je tombe en disgrâce? Aurais-je effleuré cette grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché?
La grâce d'Alain Chamfort, c'est le choix de notre programmateur musical Thierry Dupin pour vous accompagner en douceur au saut du lit. Une chanson à retrouver sur L'Impermanence, le 16e album du chanteur, sorti au mois de mars et annoncé comme son tout dernier. Il est 5h12, voici le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Mathilde Munoz.
Le 18 mars, un premier cas de choléra a été confirmé à Mayotte et depuis, d'autres malades sont régulièrement détectés.
Effectivement, Mathilde, 37 cas de choléra ont été identifiés selon un nouveau bilan de l'Agence régionale de santé communiqué à l'AFP. Cette maladie, dont les symptômes s'apparentent à ceux d'une forte gastro-entérite, se propage par contamination oro-fécale liée à des problèmes d'assainissement d'eau. À Mayotte, un tiers des habitants n'a pas accès à l'eau potable et les populations des Comores qui arrivent à Mayotte importent beaucoup cette bactérie. Face à cette situation, hier mercredi, le ministre de la Santé Frédéric Valtou a annoncé se rendre les 9 et 10 mai prochains à Mayotte pour apporter son soutien aux équipes sur place et rencontrer les autorités sanitaires locales. Le ministre a par ailleurs annoncé l'arrivée de 18 nouveaux médecins et infirmiers réservistes en renfort sur l'île pour faire face à la hausse des cas de choléra. Ceux-ci viennent s'ajouter aux 49 réservistes déjà mobilisés sur place. Selon le ministre, la situation est néanmoins sous contrôle. Quant à la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, elle est attendue aujourd'hui dans l'archipel et ce jusqu'à demain, vendredi. En Guadeloupe maintenant, le maire des Abîmes, Éric Jalton, demande au gouvernement la levée du couvre-feu pour les mineurs non accompagnés dans deux quartiers de sa commune, dans une lettre adressée à Gérald Darmanin, datée du 29 avril dernier. Plus de précisions avec Pascal Pétrine de Guadeloupe La Première.
Dans cette lettre, Éric Jalton interroge le ministre de l'Intérieur sur le pourquoi d'une telle décision de couvre-feu pour les mineurs de plus de 15 ans dès 20h dans ces deux quartiers des Abîmes. Des quartiers qui, selon lui, ne présenteraient pas de faits de délinquance plus importants qu'ailleurs. Et l'édile d'interroger le ministre sur l'absence de renforts de police de proximité et de médiateurs sociaux de terrain et du choix des horaires retenus. Autre questionnement, l'âge des concernés. La limite des moins de 17 ans aurait été plus approprié au vu des statistiques établies en matière de délinquance. Quant au créneau horaire, 23 heures serait plus approprié compte tenu que 60% des actes de délinquance se déroulent hors du créneau choisi par le ministre. Éric Jalton demande au ministre de mettre fin à cette expérimentation et privilégier des dispositifs préventifs et répressifs ciblés concernant la délinquance et la criminalité et de conclure sur la question du maintien durable ou non du déploiement exceptionnel de forces de l'ordre dans le contexte du couvre-feu qui devrait mécaniser uniquement certes faire diminuer le nombre de délits dans le secteur concerné.
En Martinique, la collectivité territoriale met en vente des biens immobiliers dont elle n'a plus l'utilité et qu'elle ne veut plus entretenir à perte, comme l'explique le conseiller Alexandre Ventadour au micro de Corinne Jean-Joseph de Martinique la Première.
Le foncier, c'est quelque chose de dynamique, c'est pas figé dans le temps. Et là, on met en vente des biens dont on ne fait rien. Donc là, on est à l'Assemblée, en centre-ville. Il y a quelques très vieux bâtiments alentour qui sont inoccupés depuis plus d'une vingtaine d'années. Moi, il me semble normal qu'ils vivent, en fait, qu'ils soient repris par des gens qui en auront l'utilité, qui vont y développer des projets, des activités économiques. Donc voilà, c'est 11 biens auxquels on n'a pas donné de poursuite d'activité. Quand on ne peut pas faire par nous-mêmes et qu'un bien a un potentiel à être exploité par d'autres, voilà, on le met en vente, tout simplement.
Enfin, Mathilde, en Nouvelle-Calédonie, une convention a été signée mardi dernier entre les communes de Païta, Nouméa, Mondor, Doumbéa et l'Université de la Nouvelle-Calédonie afin de protéger les zones de mangroves du Grand Nouméa par la création d'un comité de gestion chargé de fédérer l'action de l'ensemble des partenaires concernés, ce dont se félicite Bastien Morvan, directeur adjoint du développement durable à la province sud, au micro de Mejiko Peteissi de Nouvelle-Calédonie, la Première.
La mangrove constitue un écosystème qui rend service aux vivants. Il faut avoir en tête qu'elle nous permet de nous protéger contre la houle en cas de cyclone ou voire même de tsunami. Elle constitue également un habitat pour de nombreuses espèces d'animaux. C'est une zone dans laquelle l'être humain peut aller pêcher, donc subvenir à ses besoins, répondre à une économie locale. Et puis plus généralement, il faut savoir que la mangrove est un puits carbone très important et permet finalement à notre niveau de lutter contre le changement climatique. Donc c'est un écosystème qui est précieux, dont il faut prendre soin. C'est l'objet de cet accord et nous a amenés tous dans le même sens dans ce but.
Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous souhaite une bonne journée.
À vous aussi, José-Manuel Lamarque.
Le 5-7 sur France Inter.
5h16, je vous donne les grands titres de la presse quotidienne. Et d'abord l'Humanité qui publie des révélations sur la RATP. Le journal a pu consulter des documents de l'inspection du travail qui dénoncent l'intoxication de salariés de la régie des transports. Les travailleurs seraient insuffisamment protégés face aux risques chimiques dans des entrepôts de bus. 20 agents ont déposé plainte au Prud'homme. La France reste championne d'Europe de l'attractivité économique. C'est le pays qui attire le plus d'investissements étrangers. Les Échos nous donnent le détail. 1194 décisions d'implantation ou d'extension de sites ont été enregistrées l'an dernier. Nous y reviendrons dans l'histoire économique à 7h moins le quart. Plus rapidement, les autres unes. L'Opinion se demande s'il est possible de réformer la fonction publique. La Croix revient sur la nocivité des écrans pour les enfants. Le Figaro nous dit que l'Europe se réarme face aux nouvelles menaces de guerre. Les dépenses militaires des pays de l'Union ont presque toutes augmenté. Le Figaro qui affiche aussi en première page une photo de Paul Auster, hommage au plus français des écrivains new-yorkais qui vient de mourir à 77 ans. C'est aussi la une de Libération. Photo pleine page, en noir et blanc et un dossier de 4 pages. Et à propos de photos, vous avez quasiment la même en une de l'équipe et du Parisien aujourd'hui en France. Kylian Mbappé qui se prend la tête entre les mains, le visage dépité et pour cause. Le PSG a perdu sa demi-finale allée de Ligue des Champions hier soir, battu par Dortmund 1-0. Pourquoi y a-t-il des blancs sur les cartes? Que cachent ces zones vides non cartographiées? Pour pouvoir répondre à ces questions posées hier dans l'émission Zoom Zoom Zen, il faut d'abord revenir aux toutes premières cartes, les cartes du monde. D'où ça sort, Cyril Lacarrière?
Accrochez-vous, nous partons pour 3000 ans avant Jésus-Christ, notre sauveur.
Oh là là, c'est tous les jours!
3000 ans, 3 millénaires, c'est-à-dire plus de 5000 ans avant Zoom Zoom Zen. Et si on remonte si loin, c'est qu'il a été admis que c'est à cette époque qu'on remonte la toute première carte. Cette carte, c'est celle de Gassur, une ville irakienne qui s'est ensuite appelée Nuzi. Si elle est considérée comme la toute première du genre, c'est qu'elle contient toutes les caractéristiques d'une carte, à savoir orientation, pictogramme, toponyme, etc. Des détails tracés sur une tablette en argile qu'on a retrouvée lors de fouilles en 1930 et qui appartient aujourd'hui à un musée de l'université de Harvard. Alors sur cette carte, il y a déjà des blancs, mais je pense que c'était juste pour faire plus simple qu'à l'époque, pas de fantasme derrière tout ça.
Et ensuite, il va falloir attendre très longtemps avant de voir apparaître la première carte du monde.
Oui, c'est vrai, mais c'est encore très loin de nous puisqu'on attribue à Anaximandre d'avoir été le premier à en dessiner une et c'était en 600 avant Jésus-Christ. Cette carte est, disons, partielle et partiale puisqu'elle est centrée sur la Méditerranée et découpée en trois continents, l'Europe, l'Asie et la Libye, autour un océan tout rond. Une carte qui introduit déjà à l'époque que la Terre pourrait être ronde. On est 2000 ans avant Galilée. Après, et tout au long des siècles, chose intéressante, les maps mondes vont souvent avoir un prisme religieux. 1492, c'est l'année du premier globe terrestre. Il est l'œuvre du navigateur Martin Benaïm, un tout petit globe car il ne fait que 50 cm de diamètre. On est sur une dimension de type bûche. Quant à la première carte de France moderne, on la doit à Horace Finn, un astronome et cartographe. La carte a un petit nom, la Gallia, et elle est créée en 1525. Une anecdote, enfin, pour finir, en fanfare, ce DCS.
Ah oui, vraiment, fanfare.
En fanfare. On aurait dû mettre d'ailleurs une musique de fanfare.
On pourrait
la prochaine fois. Un peu le propos.
Quand il se lance à la découverte de ce qui deviendra l'Amérique, Christophe Colomb se base sur une carte faite par l'astronome italien Paolo Toscanelli, qui remonte à 1468. Problème, dans cette carte, il montre l'Europe séparée de l'Extrême-Orient par un océan de seulement 10 000 km de large. Il y aurait même une île au milieu. Du coup, ce bon vieux Christophe se dit que ça se tente. Il pense même que son voyage fera moins de 5 000 km. Finalement, ça sera 4 fois plus. Mais sans cette erreur, il n'aurait jamais découvert le Nouveau Monde et aujourd'hui, nous n'aurions pas d'iPhone. Alors, qu'est-ce qu'on cache dans les cartes ? Pourquoi y a-t-il des blancs dans les...
Je souhaite d'avoir raconté tout ça juste parce qu'il avait cette dalle et qu'il voulait la placer quelque part.
Si les Russiens n'étaient pas là.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est une bonne question, Quentin. Alors, qu'est-ce qu'on cache dans les cartes ? Pourquoi y a-t-il des blancs dans les cartes ? Qui les décide ? Pourquoi donc ces blancs éveillent notre curiosité ? Et si le blanc était plus intéressant que le reste ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Cyril Lacarrière et son DCS, d'où ça sort tous les jours dans Zoom Zoom Zen de Mathieu Noël. L'émission est en direct entre 16h et 17h. Au menu cet après-midi, un régime alimentaire, les flexitariens. Tanguy Pasturo est naïf. Il croit tout ce qu'on lui dit et tout ce qu'il lit sur Internet. Il nous raconte sa déception dans 3 minutes, juste après Norah Jones. Que vous entendez déjà ? Bon réveil sur France Inter.
Sacrifice, I'm trying to say. Try to stop waiting for the pain.
Norah Jones en playlist sur Inter avec Paradise, extrait de son 9e album Visions.
France Inter.
Chronique Confidence pour Tanguy Pastureau. Il nous dévoile son plus grand défaut.
J'ai énormément de qualités, mais j'ai aussi un défaut. Voilà, je suis naïf. C'est dû à ma qualité 57 et à ma qualité 123, qui sont la gentillesse et l'ouverture d'esprit. J'ai tendance à croire ce qu'on me dit. Donc, dans la vraie vie, ça va, parce qu'au pire, Daniel Morin, pour m'attirer dans son bureau, va me dire qu'il a des chouquettes. Et c'est que quand il a fermé la porte que je vois les autres gens attachés avec des pinces crocodiles sur les tétons. Mais sur Internet, je me fais avoir comme un bleu. Vous vous souvenez, en juin dernier, quand j'avais acheté sur le net une substance soi-disant proche du CBD, aux propriétés relaxantes, et que j'ai fini aux urgences parce que je voyais des licornes. Et ben voilà, je peux pas concevoir que des gens vendent des produits néfastes. La fois aux portes de Saint-Ouen, j'ai cru acheter de la farine à ce jeune en scooter où j'ai fait une tourte pour la fête des voisins. Sur 4 jours, personne n'a dormi dans l'immeuble. Même principe, je sais plus quand, j'étais sur X, le réseau d'Elon Musk où des complotistes discutent avec des nazis. Et là, je vois une pub parce que j'ai pas pris la version premium qui, contre de l'argent, permet de les supprimer. Hein, en fait, sur Internet, je vois surtout des pubs. J'ai appris seulement hier la mort de Jacques Chirac parce que depuis 4 ans, je suis devant des pubs pour les mentales. J'ai vu tellement de trous qu'on dirait le CV de Philippe Douste-Blazy. Et bon, le choc, sur cette pub X, on voit Élise Lucet de France 2, le visage tuméfié comme si elle venait de faire un combat de MMA contre Benoît Saint-Denis. Et à côté, une fausse une du Monde avec écrit « La prestation d'Élise Lucet s'est terminée en tragédie ». Je me dis, un patron du CAC 40 qu'elle a poursuivi un jour dans la rue a dû la reconnaître depuis le ciel et a craché son jet privé sur son visage en criant « Tout ça avec nos impôts ». Curieux, je clique. Je suis inquiet pour Élise Lucet, parce que sous cette carapace de guerrière se cache sans doute une âme de bébé hérisson. Et en fait, le lien mène à une interview d'Élise Lucet où elle explique même pas le cocard qu'elle a sous l'œil. On se dit, quelle pudeur, quoi. On pense à des pensifs, comme les femmes, elles connaissent bien les douleurs de l'accouchement, donc tu penses bien qu'ensuite, même si tu leur coupes un bras, elles ont rien à foutre. Et à la lecture de l'interview, on réalise qu'en fait, Élise Lucet conseille d'investir dans une plateforme de trading de crypto-monnaie. C'est là que j'ai lâché. Hein, j'ai déjà du mal à compter les sachets de farine que mon ami pâtissier de la Porte de Saint-Ouen me demande d'aller récupérer à Rotterdam. Parce qu'il doit être affilié avec Top Chef.
Bien sûr.
C'est pas pour me lancer dans le virtuel. Alors bien sûr, parce que vous êtes plus vif d'esprit que moi et qu'au fond, je ne vous mérite pas, à part une personne qui ici est encore plus conne. Donc vous aurez compris que c'est une arnaque. Et des pubs avec Élise Lucet, j'ai dû en voir 500. En plus, c'est pas la seule, il y a eu des fausses pubs avec Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse. Oh. Attention, Leïla, ça se rapproche. Ça sent la grosse présence sur X d'ici 2-3 jours. En plus, si c'est une pub pour le trading, l'auditeur un peu à gauche de France Inter, parce qu'on a les 20 derniers, va te prendre en grippe. Hein, c'est une fin de carrière. Étape par laquelle sont déjà passés Faudel, Michel Noir et les gens qui ont fait la dernière photo en date de Kate Middleton. Donc ça, c'est pour Lucet. Et depuis, ça part dans tous les sens. Faut vraiment que les gars de Poutine, pas le RN, hein, les vrais Russes, coupent le cap de la fibre, parce que le web, c'est devenu une vaste poubelle. Depuis, il y a eu la même chose avec Jamel Debbouze. Fausse couve du Monde avec écrit « La Banque de France poursuit Jamel pour ses propos tenus sur une radio en direct » avec une illustration de Jamel en interview, mais sur RFM, radio où aucun propos choquant n'a jamais été tenu. La fois où Gérald de Palmas a dit que la veille au soir il avait bu une tourtelle, ça a été le moment le plus punk de l'histoire de RFM. Hein. Donc là, j'ai pas cliqué, c'était trop gros. Pas plus que quand j'ai vu une pub avec Francis Cabrel. Il y en a une. Oui, Cabrel, le type qui donne le moins envie d'acheter quelque chose. Ou alors du terreau pour replanter le sous-bois à côté de la maison. Et je veux dire, il est plus pépère qu'un pull d'amarre. Et quand vous cliquez, ça vous renvoie aussi à de la crypto-monnaie. Cabrel et Bitcoin, l'association la plus improbable de l'histoire.
Carrément.
C'est comme si en cliquant sur une photo de Clara Luciani, ça vous renvoyait sur la billetterie du Hellfest. Alors, pardon, hein, pardon Nagui, je suis pas publicitaire, mais il faut que le produit corresponde un peu à la personne.
D'accord.
Voilà, Charal, ils vont pas caster Aymeric Caron. Et le problème, c'est que globalement, les gens sont comme moi, naïfs. Vous faites un sondage là actuellement, je pense que 70% des Français pensent qu'Élise Lucet s'est fait taper à coups de baramine alors qu'elle sortait de sa Ferrari 296 GTS qu'elle a achetée grâce à ses investissements dans les crypto-monnaies. Fin de l'histoire. France Télé a porté plainte pour Élise Lucet et Francis Cabrel a déclaré les cryptos quoi.
Tanguy Pastureau, tous les jours dans l'émission de Nagui et Leïla Kadour. On le retrouve à 12h10. Cette émission s'appelle La Bande Originale et aujourd'hui, les invités sont les comédiens Max Boublil et Mélanie Bernier pour le film Neuilly-Poissy en salle la semaine prochaine.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce mardi,
je m'appelle Zao.
Faites toujours beau au-dessus des nuages.
Zao de Sagazan, la voix de la nouvelle génération.
Je suis et sûrement pas l'inverse.
Accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Dylan Corley.
Dis-moi ce je t'aime.
concert unique en direct et en public sur France Inter ce mardi à partir de 20h.
Il est 5h29. Dans un quart d'heure, l'invité déjà debout, c'est un podologue de Haute-Savoie qui participe au concours Lépine. Il a inventé un nouveau type de semelle orthopédique. Nous aurons aussi la visite de Michel Abesca pour nous conseiller un roman d'anticipation sociale et politique. Un livre qui imagine un monde en quête d'absolue transparence. Il n'y a plus de vie privée. Tout est étalé sur Internet. Et côté musique, la chronique playlist consacrée au chanteur de soul américain Aaron Fraser. Ça y est, il est 5h30. Vous écoutez France Inter. Les dernières infos avec Arthur Fradin. En Seine-Saint-Denis, il faut attendre plus de 6 mois avant de passer son permis de conduire.
Le 93 confronté à une grosse problématique, il est à la fois le département le plus jeune de France métropolitaine, plus d'un habitant sur 3 à moins de 25 ans, mais il y a aussi de moins en moins d'inspecteurs. Sur les 6 derniers mois, plus de 10 sont partis, selon les syndicats d'auto-école. Cela crée donc des embouteillages pour passer le permis, François Ventéjou.
Les mains sur le volant de la voiture école, Quentin entame sa dernière ligne droite.
25, 26, j'approche des 30 heures.
Il est bientôt prêt à passer son permis de conduire, mais pour l'instant, pas de créneau disponible avant juillet. Alors d'ici là, il compte poursuivre les cours.
Si je perds 4 mois à attendre, je vais perdre ma conduite. J'aurai besoin de conduire pour arriver au jour de l'examen comme il faut.
Entraîner les apprentis conducteurs sans trop les faire payer, c'est la difficulté pour les formateurs. Mélina Maouche travaille à l'auto-école du Parc à Livry-Gargan.
Alors avant, on faisait conduire les élèves à peu près 3 fois par semaine. Actuellement, on les fait conduire 1 fois par semaine uniquement, voire 1 fois tous les 10 jours pour essayer d'étaler leurs heures jusqu'à une éventuelle place d'examen.
L'attente est passée de 2 à 6 mois en un an. Wissam Ebarki est délégué de l'Union nationale des indépendants de la conduite.
On ne peut pas leur en vouloir aux inspecteurs, c'est tout à fait normal. Par contre, on peut en vouloir aux politiques, administrations, qui n'a pas anticipé sur l'arrivée d'autres inspecteurs. Là, à la dernière réunion, on nous annonce qu'il y aura des inspecteurs qui vont rentrer à l'école qu'à partir du mois de juin.
De son côté, le syndicat Force ouvrière majoritaire chez les inspecteurs met en avant le manque de préparation de certains élèves. En Seine-Saint-Denis, le taux de réussite est seulement de 50%, ce qui participe à la saturation du système.
Un reportage de François Ventéjou. Eux n'ont pas encore l'âge de passer le permis, mais n'ont plus le droit de mettre le nez dehors la nuit. Un couvre-feu pour les moins de 13 ans est désormais en vigueur de 23h à 6h du matin à Nice. La ville suit l'exemple d'autres communes qui justifient la mesure par la lutte contre la délinquance. Dans le quartier sensible des Moulins, le couvre-feu est étendu aux moins de 16 ans. Une usine Volvic d'embouteillage victime d'un incendie volontaire hier matin à Volvic dans le Puy-de-Dôme. Le site est à l'arrêt. La gendarmerie fait état d'une explosion. Des tags avec des messages écologistes ont été retrouvés sur place. 1,8 tonne de cocaïne saisie sur un bateau au large de Saint-Martin dans les Antilles françaises. L'embarcation sans nom ni immatriculation s'était amarrée à un ponton au niveau de la commune de Marigot dans la partie française de l'île. Les occupants ont pris la fuite.
France Inter 5h32. Les premières conséquences du plan Rwanda lancé par la Grande-Bretagne se font sentir en Irlande.
Et Londres a adopté il y a une semaine cette loi controversée. Elle permet d'expulser au Rwanda des migrants arrivés dans le pays illégalement. Alors, ils sont nombreux à traverser la mer d'Irlande et à se réfugier à Dublin. Les policiers ont démantelé hier matin un campement qui s'était installé au cœur de la capitale irlandaise. Clémence Pénard.
Des barrières et des policiers pour bloquer la route devant l'Office de protection internationale. C'est là, dans une tente sur le trottoir, qu'a vécu pendant près d'un an Pir Sami, originaire de Turquie.
On est en sécurité nulle part. Nulle part on peut commencer sa vie. Le plan Rwanda est raciste. Vous m'envoyez sur un autre continent, sans mon avis. Vous me forcez. Demander l'asile n'est pas un crime. Moi, j'ai peur du gouvernement. Ce qui s'est passé ici, c'est une décision du gouvernement.
Selon les autorités irlandaises, 90% des arrivées récentes de sans-papiers se font via la frontière avec la province britannique d'Irlande du Nord. Gary Daly est avocat et il défend l'accueil des migrants.
Nous nous attendons à voir beaucoup plus de gens nous dire qu'ils étaient en Grande-Bretagne, mais qu'ils ont dû partir par peur d'être envoyés au Rwanda. Il y a eu récemment une décision de la Haute Cour de justice irlandaise qui a considéré la Grande-Bretagne comme un pays dangereux pour les demandeurs d'asile, en raison de ce plan Rwanda. Ça va mettre le gouvernement irlandais dans une position très difficile.
Le Premier ministre Simon Harris, qui veut se montrer ferme face à l'immigration à l'approche de plusieurs élections, veut en effet légiférer d'urgence pour pouvoir renvoyer les migrants vers le Royaume-Uni.
Un reportage reportage de la correspondante de France Inter en Irlande, Clémence Pénard. En Turquie, vives tensions. Hier, lors des défilés du 1er mai, de nombreux manifestants souhaitaient converger vers la place Taksim à Istanbul pour protester contre le régime d'Erdogan. 217 personnes ont été interpellées. Selon le ministère de l'Intérieur, elles ont attaqué les policiers qui bouclaient la place. Et puis en football, un coup d'épée dans l'eau pour le Paris Saint-Germain en demi-finale aller de Ligue des Champions. Défaite des Parisiens hier soir 1-0 face au Borussia Dortmund. Le match retour, ce sera mardi prochain au Parc des Princes. Ce soir, c'est le rival, l'OM, qui défie les Italiens de Bergame à 21h en demi-finale aller de Ligue Europa dans un vélodrome à guichet fermé. Près de 3000 supporters italiens sont attendus.
Arthur Fradin, il est 5h35. En mai, fais ce qu'il te plaît, oui. Mais garde quand même une capuche ou un parapluie à portée de main, car les prochains jours s'annoncent bien humides d'après Météo France. Pour aujourd'hui, des pluies sur les deux tiers est, de l'autre côté, donc de la Bretagne à l'Aquitaine et au Roussillon. Encore quelques averses, mais aussi des éclaircies. Et les températures sont en baisse de 6 à 12 degrés ce matin, 12 à 19 cet après-midi. Dans les prochaines minutes, nous irons au Kurdistan irakien qui se prépare à une offensive de la Turquie. Comment la peau se fabrique-t-elle et se renouvelle-t-elle? On répond à cette question dans les petits bateaux. L'invité déjà debout participe au concours Lépine avec une invention qui fait du bien aux pieds. Et dans la chronique polar, un thriller qui fait réfléchir. Il dénonce les dérives de la transparence totale.
France Inter. Le 5-7.
Toute la musique qu'on aime, elle vient de là, elle vient du blues, elle vient aussi de la soul et du R&B, n'est-ce pas Charline Roux? Bonjour.
Bonjour Mathilde.
Confirmation avec Aaron Fraser.
Et vous nous donnez là de très bonnes indications, littéralement, puisque c'est aussi son nom, Aaron Fraser, est chanteur et batteur au sein de Duran Jones and the Indications. Et comme il n'est pas Duran Jones, suis-je clair?
Parfaitement.
Des étudiants fans de soul qui enchaînent les albums depuis 2016 avec succès. Et puis un jour, Aaron Fraser, l'homme au remarquable falsetto, reçoit un coup de fil d'un autre artiste, fan de ses prouesses vocales, Dan Auerbach des Black Keys. Que peuvent bien se raconter deux geeks rétro? Des histoires de musique, de la soul au western spaghetti, en passant par le disco et le hip-hop, et des idées qui donneront naissance au premier album solo de Fraser en 2021, Introducing, le bien nommé, et ce titre, Bad News. Je crois que beaucoup de gens me connaissent comme le batteur qui chante dans Duran Jones and the Indications, dit-il, ou à travers mon projet gospel. Alors quand il s'est agi de faire un album solo, j'ai voulu qu'il sonne comme une introduction à mes différents styles musicaux.
Comment ça, un projet gospel? Aaron Fraser pratique aussi ce genre?
À voix exceptionnelle, rien d'impossible. Il vocalise aussi avec son groupe The Flying Stars of Brooklyn. S'apprête à sortir un nouvel album solo, Into the Blue, qu'il définit comme le plus fidèle des portraits de l'artiste qu'il est aujourd'hui, après la fin d'une longue relation. Un album dans lequel il est question de chagrin, de solitude et du chemin de la guérison. Into the Blue signifie vraiment se diriger vers l'inconnu, ajoute-t-il. Et dans la playlist Inter, ce titre, Payback, on écoute Aaron Fraser.
Payback, à retrouver sur Into the Blue, le deuxième album solo d'Aaron Fraser, attendu le 28 juin. Quant à vous, Charline Roux, vous êtes attendue dans ce studio lundi prochain, parce que le vendredi, c'est Mathieu Conquet qui officie pour cette chronique dans la playlist. Il est 6h20, la Turquie va-t-elle envahir le nord de l'Irak? Ankara veut créer une zone tampon le long de sa frontière au Kurdistan pour éliminer les bases du PKK dans les montagnes. Le PKK est persuadé que cette offensive terrestre aura lieu avant l'été et les combattants kurdes s'y préparent. Reportage dans les hauteurs de Kandil, signé Théo Renaudot.
Ici Kandil, montagne sanctuaire du PKK, c'est un peu leur QG. Aujourd'hui, 2000 combattants et sympathisants célèbrent le nouvel an kurde. Chants, slogans et discours politiques résonnent. C'est une fête en zone de guerre. Les bombardements turcs sont quotidiens. Est-ce qu'il y a des risques, selon vous, à être ici? Est-ce que les gens qui font la fête ici à Kandil prennent des risques?
Bien sûr qu'il y a des risques à être ici. La Turquie ne perd aucune opportunité de tuer des membres du PKK ou des civils.
Dire 28 ans, c'est un combattant du PKK.
Si ça se trouve, elle peut même frapper cette cérémonie. Ce midi encore, il y avait des drones turcs au-dessus de Kandil. Elle utilise des armes chimiques, c'est pourtant interdit, rien ne l'arrête.
Depuis des mois, la Turquie intensifie ces bombardements sur les positions PKK du nord de l'Irak. Tous attendent maintenant de pied ferme l'offensive terrestre, comme ces deux guerriers ros.
Récemment, on a mis au point une arme anti-drone. On en a abattu 15 ces derniers jours. On a aussi des grottes pour nous protéger.
Et ça serait quoi les atouts du PKK face à la Turquie ?
Les membres du PKK ont grandi dans ces montagnes. On connaît bien la région, c'est pratique pour tendre des embuscades. Quand les soldats turcs arrivent, nous, on les attend. On a nos tunnels, notre connaissance des montagnes. La Turquie n'arrivera pas à prendre Kandil. Ce pays essaye depuis 40 ans, mais n'a jamais réussi.
Cette fois-ci, ça pourrait peut-être se passer différemment. La Turquie dispose du soutien apparent du gouvernement kurde irakien et de l'Irak fédéral.
Qu'ils essayent, qu'on rigole.
Madina est une mère de famille. Sa sœur et sa fille ont été tuées dans la guérilla contre la Turquie.
L'Irak, la Turquie, le gouvernement kurde irakien, n'importe qui. Personne ne peut défaire le PKK et prendre nos montagnes. Kandil, Zab ou Matin, dans leur rêve, ouais.
Une offensive turque qui est donc ici prise au sérieux, mais qui n'a pas pour but d'éradiquer le PKK des montagnes kurdes irakiennes, selon le chercheur en sciences politiques Arthur Kenney, spécialiste de la question.
Le PKK ne peut pas être éradiqué militairement. La principale base du PKK, les monts Kandil, mais également d'autres possessions, tout cela, les Turcs ne peuvent absolument pas se lancer à l'assaut de ces territoires. L'armée turque est au maximum de son déploiement militaire et toutes les batailles que lancera l'armée turque seront des batailles coûteuses en vie. Les Turcs le savent, c'est pour cela que l'offensive risque d'être, mine de rien, limitée aux Mongaras.
Et concrètement, les Mongaras, qu'est-ce que ça représente ?
Une immense zone montagneuse, mais qui est bien contrôlée par le PKK. Or, le PKK, depuis ses bases du Mongara, mène des offensives et des attaques contre les patrouilles turques, contre les bases militaires turques installées au Kurdistan irakien. Et si la Turquie veut se maintenir avec un coût en vie humaine relativement réduit, elle doit attaquer le PKK, les bases du PKK, et réduire la puissance militaire du mouvement.
Offensive sur le PKK évoquée cette semaine par le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'une visite en Irak, la première depuis 13 ans.
Théo Renaudon à Kandil dans le Kurdistan irakien, un reportage à réécouter sur l'application Radio France et le site de France Inter.
France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h moins le quart, un podologue nous attend au bout du fil. Je crois même que c'est la première fois qu'on a ce métier dans le cadre de l'interview Déjà Debout. Bonjour Xavier Fresnel.
Bonjour Mathilde.
Vous êtes installée en Haute-Savoie, mais depuis hier, vous êtes à Paris pour participer au concours L'Épine. C'est la 120e édition de cette compétition où les inventeurs en tout genre rivalisent d'ingéniosité. Vous, qu'avez-vous inventé ?
J'ai inventé une semelle qui se suit uniquement du côté de la douleur de l'épine calcanéenne. Si vous
alors attendez, juste, je vous coupe 30 secondes parce que justement, il y a eu une petite coupure, on n'a pas bien compris votre phrase. Vous avez inventé une semelle qui s'utilise que sur un pied, c'est ça ?
Oui, qui s'utilise l'épine calcanéenne. Est-ce que vous avez entendu parler de l'épine calcanéenne ? C'est une douleur au niveau du talon.
Mm-hmm.
qui touche quasiment 10% de la population. Et j'ai développé une semelle qui s'utilise uniquement du côté de la douleur. Elle est tellement fine qu'elle n'a pas besoin d'être utilisée de l'autre côté.
Parce que généralement, on a pas mal aux deux pieds ?
Non, exactement. On a pas mal aux deux pieds en général.
D'accord. Mais en fait, c'est quoi le problème ? Il n'y avait pas ça avant ? Ça n'existait pas ?
Alors, le problème, c'est qu'avant, en tant que podologue, puisque comme vous l'avez dit, je suis podologue, je faisais des semelles qu'on m'a appris à faire quand j'étais étudiant, qui étaient relativement épaisses. Et puis, ces semelles, dans les chaussures féminines, elles ne rentraient pas. Mes patientes me disaient qu'elles étaient bien sympas, mes semelles, mais écoutez, quand on veut mettre des chaussures ouvertes, ça passait pas.
Ah ouais, je vous confirme, même dans les bottines, ça passe pas. Dans les baskets, ça va, mais sinon, les petites chaussures, dès qu'elles sont un peu plus étroites, c'est fini, hein. C'est mort.
c'était ça le problème. Donc, je me suis attelé à trouver la solution, et après 20 ans de recherche, j'ai trouvé.
Est-ce qu'aujourd'hui, on propose quoi aux personnes qui souffrent de cette épine calcanéenne ?
Alors après, ça dépend de la causalité. De cette épine calcanéenne. Si vous êtes en gros surpoids, ma semelle va pas réussir à faire grand chose. Là, c'est vraiment le podologue qui va pouvoir faire quelque chose par des semelles spécifiques sur mesure. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on propose d'autre ? On propose des ondes de choc, mais chez le kinésithérapeute, mais c'est relativement douloureux. Ça dure 7-8 semaines. Moi, ma semelle, elle a l'avantage d'avoir un résultat quasi immédiat.
D'accord. Mais elle est déjà commercialisée, votre semelle, ou c'est juste vous qui l'avez faite et qui l'a testée avec vos patients ?
Alors, elle est déjà commercialisée. Ça fait une petite année qu'on la commercialise. Vous pouvez aller en pharmacie. On est dans plus de 200 pharmacies en France. On est déjà distribué par des pharmacies en Belgique, également en Suisse. Mmh. Pas que les pharmacies. Maintenant, on a attaqué les magasins de sport et les magasins de chaussures.
D'accord, oui. Donc, c'est déjà un projet qui est vraiment très, très bien avancé. Vous n'êtes pas le géotrouve-tout qui arrive avec juste une idée de génie au concours Lépine qui vient juste d'être un prototype. Là, vous avez déjà développé pas mal de choses. Elle se vend à l'étranger, vous m'avez dit, oui, en Belgique, hein, c'est ça ?
Oui, en Belgique et en Suisse, oui, pour l'instant. Il y a un brevet. Donc, pour l'instant, le brevet, il est en attente de validation européenne. Pour la France, il est accordé, mais j'attends la validation européenne.
Et alors, j'aimerais que vous me racontiez le déclic, l'idée. Vous savez, quand il y a une petite ampoule là, dans les dessins animés, ça y est, j'ai eu l'idée. Comment ça vous est venu, cette idée de semelle ?
Je vous dis, comme c'est à force d'entendre mes patientes me dire se plaindre de l'épaisseur de mes semelles, je me suis dit il faut vraiment que je réussisse à trouver. Et puis au départ vous commencez à faire une paire de semelles, vous commencez à faire moins épais, vous dites pourquoi mettre des deux côtés, ça va être difficile à vendre. Il faut vraiment quelque chose qui soit simple, qui soit utilisable très rapidement, qui se glisse très rapidement dans une chaussure, qui puisse se fixer dans des chaussures. Parce que j'ai pensé aux chaussures ouvertes féminines, j'ai pensé à ça, donc j'ai voulu que la semelle puisse s'adapter à ces chaussures et se fixer. Si vous mettez une paire de semelles, il faut mettre les deux côtés. Si elle est épaisse, ça se voit, c'est pas très, très discret. La mienne, elle est très, très discrète.
Et alors, à propos du...
Et avoir les yeux sur les pieds pour voir qu'elle est dans la chaussure.
Et à propos du concours Lépine, vous êtes combien au total à participer là, cette année ?
Alors là, j'ai aucune idée. Je sais que le hall, on est au le hall 1, c'est assez grand.
Ouais.
Je dirais peut-être 200. J'ai pas eu le temps hier parce que de faire tous les stands, on a été un peu dévalisé pour le premier jour. Mais j'ai vu des choses super intéressantes.
C'est vrai, vous avez vu quoi ?
Ouais. Ouais, j'ai vu un monsieur qui fait, par exemple, un jeu d'échecs, mais pas. Vous pouvez jouer à 2, à 3, à 4, suivant le... Si. Alors, je ne suis pas du tout joueur d'échecs.
Ouais.
J'espère bien pouvoir discuter un peu avec lui pour qu'il m'explique ça.
Et puis, il y a eu des précédents, parce que le Milborne a gagné le concours Lépine il y a très longtemps. Donc, des jeux qui gagnent, ça arrive. Hein.
Ah bah, vous me l'apprenez. Par contre, j'ai appris que c'était le fin. La machine à laver.
Oui.
Et
il y aura peut-être votre semelle, Xavier Fresnel. Je vous le souhaite, en tout cas.
C'est gentil.
Merci de nous avoir accordé quelques minutes, la Foire de Paris, avec donc le concours Lépine. C'est jusqu'au 12 mai au Parc des Expos de la Porte de Versailles. Merci, monsieur Fresnel, et bonne journée. Il est 6h10, et maintenant on parle du plus grand organe du corps humain dans les petits bateaux.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, on parle de notre enveloppe, mais alors pas celle de la poste, hein, notre enveloppe corporelle.
Bonjour, je m'appelle Elia, j'ai 6 ans et demi,
Je voudrais savoir comment elle se fabrique la peau. Merci, au revoir.
Comment elle se fabrique la peau? Nina Ross, médecin dermatologue. Expliquez tout à Elia, s'il vous plaît.
Bonjour Elia, merci de poser cette question qui est importante pour moi. C'est important de comprendre comment la peau se fabrique parce que de ce fait, on va en prendre un petit peu mieux soin tout au long de sa vie. En fait, moi j'ai envie de te répondre en distinguant le moment où la peau commence à se fabriquer lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère et puis ensuite la façon dont la peau se renouvelle une fois qu'on est né et quand on devient adulte. Lorsque les enfants sont dans le ventre de leur mère, dans les toutes premières semaines de vie, il y a une période qui s'appelle l'embryogenèse. L'embryon se fabrique. Et il y a deux types de tissus qui se fabriquent et qui vont donner lieu à la peau plus tard, qui sont l'ectoderme, qui va donner l'épiderme, la couche la plus superficielle de la peau, mais également le système nerveux, le cerveau. Et il y a le mésoderme, qui est un petit feuillet qui va se différencier ensuite en derme et hypoderme. En fait, si on regarde la peau en coupe, on va voir de haut en bas l'épiderme, c'est des piles de cellules. Ensuite, on a une jonction entre l'épiderme et le derme. En dessous, on a le derme, qui est en fait un maillage, un tissu fibreux où il y a le collagène, le tissu de soutien de la peau et un petit peu d'eau. Et juste en dessous, il y a une couche de gras qui s'appelle l'hypoderme et qui est destinée à isoler notre corps et à protéger les muscles et les os qui sont en dessous. Ça, c'est avant la naissance. Après la naissance, notre peau, elle est finie. Donc, elle est faite d'un empilement de cellules en surface qui forment l'épiderme et ensuite d'un réseau fibreux en dessous qui forme le derme. Et donc, je le répète, ensuite une petite couche de gras qui est normale et naturelle, qui est l'hypoderme. Au cours de notre vie, les différentes parties de notre peau ne vont pas se fabriquer de la même façon, en fait. Au niveau de l'épiderme, on a comme un petit mur de briques, enfin un empilement de cellules. Et la couche la plus profonde s'appelle la couche basale. Il y a ce qu'on appelle des cellules souches, qui sont en fait des cellules qui se renouvellent tout le temps et puis qui vont se différencier au fur et à mesure qu'elles remontent vers la surface pour donner lieu, sur la couche la plus externe, à cette fameuse couche cornée qu'on appelle couche de cellules mortes.
Oui, la peau morte. Mais donc, ça remonte d'en dessous un peu comme des bulles dans une casserole.
Pour la couche qui est l'épiderme, les cellules de la peau remontent de bas en haut jusqu'à desquamer, c'est-à-dire qu'elles se détachent de façon invisible. Ça, c'est pour l'épiderme, qui est notre petite couche étanche hein, qui assure l'intégrité de la peau, qui la protège des agressions bactériennes, irritantes, environnementales, etc. En dessous, il y a le derme. Alors le derme, on en parle beaucoup parce que c'est là où il y a le collagène. En général, les gens savent ce que c'est que le collagène. Ce sont des fibres, en fait, qui assurent l'élasticité et la robustesse de la peau. Il n'y a pas que du collagène, il y a aussi des fibres de tissu élastique et de l'acide hyaluronique, qui est comme une éponge, c'est une grosse molécule qui va garder l'eau dans la peau. Ce collagène, il est fabriqué par des cellules qui s'appellent les fibroblastes, qui sont dans le derme, et qui vont renouveler jusqu'à une trentaine d'années de façon très efficace le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique, et puis à partir de 30 ans, c'est un renouvellement un petit peu moins efficace, on dit que la peau commence à vieillir.
Avec ensuite donc l'apparition des premières rides chez les femmes comme chez les hommes, et là, même si le cycle continue, c'est inévitable.
Pendant toute la vie, ouais. Nos cellules se renouvellent en permanence, ça, il n'y a pas de fin à ce cycle-là, mais il y a des techniques qui permettent de stimuler le renouvellement ou d'obtenir un renouvellement de meilleure qualité si on veut lutter contre les rides.
Lesquelles ?
Une bonne hygiène de vie, limiter tous les facteurs d'agression et de vieillissement prématuré de la peau, et puis il y a des petites astuces de dermatologue pour stimuler le renouvellement de la peau. Une des astuces les plus connues, c'est d'utiliser des crèmes ou des soins exfoliants, c'est-à-dire de forcer la peau à peler un petit peu et à desquamer. On sait que ça active le renouvellement en dessous.
Mais vous avez quand même le temps, hein, les enfants. Et puis, c'est bien les rides aussi, c'est les marques de la vie qui passent et donc qui continuent, ne l'oublions pas. Salut les matelots.
Les petits bateaux. À retrouver quand vous voulez sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France.
Les petits bateaux avec Camille Cronier.
France Inter. 5-7.
Dans 5 minutes, le journal de 6 heures, le temps de feuilleter, un roman noir. Bonjour Michel Abesca.
Bonjour Mathilde.
Benjamin Fogel publie L'absence selon Camille. C'est le dernier tome d'une trilogie que vous trouvez passionnante et dont nous avons déjà parlé ici.
Oui, le projet aux confins du polar et du roman d'anticipation est en effet impressionnant puisqu'il s'agit de raconter la naissance et les transformations d'un nouveau système économique et politique, la transparence. Le premier volet, intitulé La transparence selon Irina, met ainsi en scène à la fin des années 2050, un monde où toutes les données concernant l'ensemble des citoyens sont accessibles à tous sur Internet. Le deuxième volume, Le silence selon Manon, revient en arrière et raconte en 2025 la naissance dans la douleur de ce système de la transparence en réaction à la violence des réseaux, à l'enfer des faux comptes, des trolls et des harceleurs planqués derrière le pseudonyme.
Et qu'en est-il du troisième volume ? À quel moment se situe-t-il ?
Alors l'absence selon Camille commence juste après la fin du premier tome en 2060. La fin du capitalisme et l'avènement de la transparence ont permis des avancées majeures en termes d'égalité sociale et de lutte contre le dérèglement climatique. Mais le roman met d'abord en scène les combats politiques provoqués par les risques du nouveau système, ses dérives possibles vers une société de contrôle généralisé et la fin des libertés individuelles. Et c'est passionnant, car évidemment complètement d'actualité.
On est entre l'essai et le roman ?
Oui, il y a à l'évidence derrière ce roman un gros travail de recherche et de réflexion, mais il s'agit bel et bien d'un roman solidement construit et plein d'actions et de rebondissements. Une fois dedans, on ne le lâche pas, croyez-moi. Quand s'ouvre le livre, des graffitis apparaissent sur les murs de Paris. Malgré la transparence, on vous ment, qui annonce des révélations sur un scandale d'État. À l'origine de cette agitation, un mouvement révolutionnaire, les Obscuranets, qui militent contre le modèle politique de la transparence et revendiquent le retour de l'anonymat en ligne. Le roman va alors s'organiser autour de la traque de ces militants anti-transparence par les forces de l'ordre et les désordres engendrés par la révélation du scandale qui vont faire le jeu du candidat d'extrême droite aux futures élections, partisan d'un accroissement des mesures de contrôle et de la transparence absolue.
Est-ce qu'on peut lire ce troisième volume indépendamment des deux premiers ?
Oui, sans problème, Mathilde. Et ce serait dommage car l'auteur reprend tous les personnages des deux premiers tomes et revient sur certains événements de leur vie pour les expliciter. Difficile d'apprécier ces révélations si on n'a pas lu les épisodes précédents. Alors sur la forme, la force de ce roman tient beaucoup à cette multiplicité de personnages et au changement constant de point de vue. Chaque chapitre, souvent court, se focalise sur un personnage, donnant ainsi son regard sur les événements, les émotions qu'il ressent, ses partis pris philosophiques et politiques. Au total, un panorama assez complet des positionnements possibles sur les questions soulevées par le roman, sans que jamais l'auteur n'impose le sien.
Quelles sont ces questions, justement ?
Celle de l'anonymat sur Internet, pour commencer. Faut-il le préserver au nom des libertés individuelles, ou bien le supprimer pour contrer la haine en ligne et l'impunité qui y règne. Et plus généralement, qu'en est-il de la transparence ? Idéal démocratique ou instrument de domination totalitaire ? Le roman invite à la réflexion sur ces questions sans sacrifier le romanesque et c'est là sa principale réussite. Roman d'anticipation, roman noir, roman d'action autant que d'idées, l'absence selon Camille est tout cela à la fois et in fine une belle réflexion sur l'identité à l'heure du numérique.
Que voulez-vous dire ?
Elle est incarnée par Camille, le seul personnage du livre qui s'exprime à la première personne du singulier. Et pourtant le personnage le plus insaisissable du roman, qui apparaît d'ailleurs flou sur la couverture du livre. Camille, figure des réseaux sociaux, porte-parole du mouvement révolutionnaire sans en faire partie. Camille intersexe, tantôt fille, tantôt garçon, qui ne cesse de se réinventer. Camille à la marge dans la vie réelle, si puissante et populaire sur le net, en mesure à la toute fin de défier le nouveau président d'extrême droite. À tel point que l'on se demande si Benjamin Fogel ne s'est pas réservé la possibilité d'ajouter un quatrième volume à sa série.
L'absence selon Camille, c'est donc signé Benjamin Fogel, un roman paru aux éditions Rivage Noir. À jeudi prochain, Michel Abesca, avec un poids lourd du polar, l'auteur français qui vend le plus de livres, Franck Tillier.
France Inter, c'est aussi sur les réseaux sociaux.
Sur Instagram, retrouvez le meilleur des émissions, nos Reels et nos stories.
Facebook, X, Snap, Insta, Twitch, TikTok, abonnez-vous.
5h58.
La météo, avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Comment ça s'annonce, Elodie Calac ?
Encore perturbé aujourd'hui après une nuit agitée avec des orages parfois violents de la Bourgogne vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France et des pluies particulièrement soutenues entre le nord du Centre-Val de Loire et la Normandie. Sur les deux tiers est du pays, ça reste pluvieux aujourd'hui, des pluies plus espacées vers la Normandie, la région parisienne, le nord de la Seine, mais plus marquées du massif central et du Centre-Val de Loire vers les Alpes et le Jura ce matin, puis sur les régions de l'est cet après-midi. Il neige sur les massifs du sud, il y a du vent en Méditerranée jusqu'à 70 km à l'heure. De la Bretagne vers les Pyrénées et le Roussillon, il reste quelques averses, surtout vers le sud-ouest, mais des éclaircies se dessinent. Elles seront plutôt belles cet après-midi. Ce matin, il fait souvent 6 à 12 degrés. Cet après-midi, il fera trop frais partout. 10 degrés à Aurillac, 12 à Auxerre et à Lyon, 14 à Abbeville, Paris, Brest, Nîmes, 16 degrés à Metz, Angers et Agen et 19 degrés à Bastia ou à